fin de ce bulletin. C'était Nanik Talani. Je vous retrouve à 17h pour...
Bonsoir à tous. Élisée Oumpati devant ce micro. Et comme tous les lundis, votre émission Sporama sur la Voix de l'Amérique de 19h à 19h30 temps universel. 30 minutes pour passer au crible l'actualité sportive du week-end. Et comme d'habitude, nos consultants sont là pour vous éclairer. En direct de Columbus dans l'Ohio, nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix Afrique.
Valdo Simbo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk, à Casablanca, au Maroc, est aussi avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée.
Dans la charpente de l'émission ce soir, il sera question de la décision de la CAF relative aux différentes compétitions des clubs, alors même que la saison en cours n'a pas connu son épilogue. Et puis, la FIFA met fin à la pagaille au niveau de la commission électorale de la FIFA. L'instance fêtière du foot mondial de commun accord avec la CAF met en place un comité ad hoc pour sortir de l'impasse. Enfin, le Bénin sera la capitale mondiale de pétanque en 2022. En prélude à l'événement, on s'active sur place à Cotonou pour faire de l'événement un véritable instrument de développement. Bienvenue à tous. La FIFA a informé la Fédération ivoirienne de football de la création d'une commission conjointe avec la CAF. Elle sera chargée d'entendre les acteurs des élections à la présidence de la FIFA. L'instance fêtière du foot mondial avait réclamé la suspension du processus électoral ivoirien suite à de possibles interférences. On prend la direction de Kinshasa. Valdo, on s'y attendait.
Cette intervention de la FIFA était prévisible. Je pense que la Fédération internationale de football association doit avoir déjà une solution à cette crise de la Fédération ivoirienne de football qu'elle ne veut pas brandir sans pour autant associer la Confédération africaine. Ce qui veut dire que la suite du processus électoral de la FIFA sera décidée à la fois par la CAF et la FIFA. Mais attention, si poursuite il y aura, il faudra que ces processus demeurent dans le respect des normes établies. Si ces processus tirent en longueur, c'est notamment à cause de la candidature de Didier Drogba que la Fédération internationale de football association et la CAF ne torpillent pas les textes pour contenter tous les candidats, mais plutôt qu'elle reste dans le respect des règles établies avant que ces processus ne soient en marche. Au cas contraire, cette crise ne va encore que tirer en longueur et voire même s'étendre au-delà du football, chose que la FIFA et la CAF ont l'obligation d'éviter.
Amédine, la FIFA rebelote tout. À quoi doit-on s'attendre désormais?
Élise, je crois maintenant on doit s'attendre à voir quand même des élections apaisées, hein, puisque comme maintenant c'est la Fédération ivoirienne de football et la CAF qui vont tout remettre en ordre, ce sera quand même, je pense que les candidats seront bien traités et il n'y aura pas quand même de parti pris. Mais c'est vraiment une défaite pour la Fédération ivoirienne de football. Mais mieux vaut tard que jamais, on va voir ce que cela va donner. En tout cas, j'ai espoir que maintenant les choses vont bien se passer, surtout pour Didier Drogba qui rêve de devenir quand même candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Élisée.
Amine Birouk, n'est-ce pas un désaveu pour le président de la Fédération, Augustin Sidi Diallo?
Je dirais même plus, Élisée, c'est un discrédit pour le président de la Fédération ivoirienne, Sidi Diallo, pour toutes les forces opposées au changement, et c'est un véritable coup de pouce pour un processus électoral plus transparent, pour des candidatures plus crédibles, et c'est surtout une nouvelle fenêtre qui s'ouvre afin que le football ivoirien puisse renaître de ses cendres et qu'on puisse avoir enfin des dirigeants capables de donner cette impulsion et redonner au football ivoirien ses lettres de noblesse. Les clubs sont rentrés dans les rangs, la fédération a une gestion opaque, la candidature de Didier Drogba a été sabotée. Et on verra si cette commission conjointe va mettre toute la lumière sur les méandres du football ivoirien et permettre enfin de mettre sur les bons rails ce processus électoral et qu'il soit le plus clair et le plus transparent possible.
Lawal, la création de la commission de la FIFA est-elle une nouvelle chance pour Didier Drogba?
On ne saurait le dire, mais étant donné que la FIFA a suspendu le processus, on doit tout reprendre à zéro, revoir un peu le code électoral, on va le dire comme ça, et faire en sorte que le processus se passe dans les meilleures conditions. Et si on doit tout reprendre, c'est que Drogba a encore une chance de se revoir candidat, de candidater à nouveau et éventuellement, si la FIFA ne considère pas les griefs portés par la commission dissoute, on peut s'attendre à ce que Drogba redevienne candidat.
Voilà.
La Confédération africaine de football a dévoilé les dates de la prochaine édition de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Les différentes associations affiliées sont aussi invitées à engager les clubs devant disputer les deux compétitions. On revient vers vous, Amine Birouk. Une nouvelle saison des Coupes de clubs dans un contexte particulier où on ne connaît pas encore la fin de l'exercice en cours.
Il existe donc cette incertitude concernant la propagation de la pandémie, disait. Elle est le véritable aléa, la véritable inconnue de l'équation qui a été posée par la Confédération africaine de football. Il y a cet échéancier avec une feuille de route assez claire. Il va falloir que toutes les fédérations se prêtent au jeu, en tout cas celles qui sont capables d'engager des clubs vu la conjoncture financière et sanitaire. La grosse inconnue, comme je le disais, réside dans la propagation de la pandémie, dans la réaction des autorités sanitaires, des différents ministères de l'Intérieur par rapport à la situation. Il se pourrait qu'on referme les frontières, il se pourrait que l'on vive entre nous. Et dans cette condition, est-ce que l'édition 2020-2021 va être solvable, rentable? Est-ce qu'on pourra aller jusqu'au terme de cette édition? Quand on voit les difficultés pour pouvoir conclure l'exercice 2019-2020, on peut se poser légitimement une interrogation concernant cet échéancier sur la capacité de la CAF et des différentes associations nationales affiliées à tenir cette feuille de route et à la respecter.
L'essence continentale a même présenté quelques scénarios. Le premier stipule que ceux qui n'ont pas pu clôturer la saison 2019-2020 et l'ayant annulée pourront engager les mêmes équipes que la saison dernière. Donc, Lawal, les deux probables représentants du Bénin seront les Buffs du Bogou en Ligue des Champions et USAE en Coupe CAF.
C'est tout à fait cela, Élisée. C'est bien que la CAF ait pu prendre une telle décision, mais c'est regrettable qu'on n'ait pas pu aller au terme de la saison en cours, qu'on n'ait pas dégagé un champion pour la Coupe CAF et un champion pour la Ligue des Champions, alors même que on projette démarrer une nouvelle saison. C'est là qu'on n'arrive pas à comprendre les dirigeants, les autorités de la CAF. On ne peut pas, dans les conditions actuelles, ne pas terminer l'exercice en cours et enclencher un nouvel exercice. C'est compliqué.
Maintenant, la CAF a deux possibilités. La Tanzanie, où le taux de contamination a véritablement diminué. L'Afrique du Sud, qui a choisi le nord de Johannesburg pour finir sa saison où les Mamelodi Sundowns ont été sacrés champions ce week-end. Ces deux scénarios peuvent lui permettre de finir la compétition des clubs en cours.
La CAF n'a pas envie de finir la compétition. La CAF a envie de terminer la saison. Non, sinon, on a plusieurs possibilités. C'est au-delà des deux pays que vous avez cités. Il y a d'autres encore qui peuvent accueillir les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de CAF. Mais la CAF s'obstine à vouloir maintenir son scénario. Je ne sais pas pourquoi on s'obstine de cette façon. Mais c'est regrettable qu'on ne puisse pas aller au terme d'une saison, mais qu'on projette une nouvelle saison alors qu'on doit forcément dégager un champion pour les clubs au niveau des coupes africaines. Malheureusement, la CAF n'a pas encore pu choisir ses champions et veut lancer une nouvelle saison.
Alors, Ahmedine Sy, on connaît déjà les deux représentants sénégalais malgré la fin prématurée du championnat.
La Fédération sénégalaise de football a décidé quand même d'arrêter le championnat après seulement la phase aller. C'est le coronavirus qui est passé par là, comme vous le savez. Mais en ce moment, c'est Tengue FC qui était leader, un leader invaincu, hein, puisque l'équipe de Tengue FC a joué tous les matchs aller sans avoir concédé de défaite. Donc c'est naturellement que Tengue a été désigné pour représenter le Sénégal pour la Ligue africaine des champions. Concernant la Coupe de la CAF, c'est le Garaf qui est deuxième qui va représenter quand même le Sénégal. Je pense que c'est normal puisque le championnat a été arrêté après la phase aller. Élisée.
Valdo, le TP Mazembe et la SV Club en Ligue des Champions, le Darin Club Motéba Pembe et Maniema Union en Coupe CAF peuvent déjà connaître leur adversaire.
Tout à fait logique, Élisée, après cette publication des dates pour les autoclubs de la CAF, mais l'on sait que 2 des 4 clubs de la RDC vont logiquement passer par les préliminaires, ce qui est vrai, les 4 représentants de la RDC aux interclubs de la CAF affûtent déjà leurs armes en étoffant leurs effectifs de fond en comble. Mazembe qui s'est séparé de sa pupille Jackson Muleka, qui est déjà arrivé en Belgique depuis le week-end, a d'autres éléments pour le supplier à ses postes d'avant-centre, notamment Joël Béa, formé également au club. Club de son côté n'a pas de soucis à se faire après le départ de Moukoko Tonombe et ressent tout ici là chez Young African en Tanzanie, puisque le club a ouvert les portes à d'autres éléments qui estiment de grandes valeurs. Mané Maignan de son côté a renforcé son staff avec l'arrivée de Daouda Lupembe et bien d'autres éléments en provenance des Renaissances du Congo. Le dernier club, Motema Pembe, demeure à ce jour le plus discret du club de la RDC en cette période où l'on cherche à avoir une idée concrète des préparatifs pendant cette période.
Amine, initialement prévu pour le 31 août, la clôture de la liste des clubs qualifiés pour ces deux compétitions a été reportée au 20 octobre. Bonne nouvelle pour le Maroc qui peine à finir son championnat à cause de la recrudescence des contaminations Covid-19.
Tout à fait, Élisée. C'est un coup de main que propose la Confédération africaine de football à la Fédération marocaine pour pouvoir finir le championnat dans les meilleurs délais possibles. On était très optimiste lorsqu'on a vu le protocole sanitaire de la FRMF, lorsqu'on s'est dit que le calendrier pourrait nous permettre de tenir l'engagement de disputer les compétitions africaines vers le 23 septembre. Et les finales de la Coupe de la CAF le 27, les demi-finales de la Champions League 25 et 26 l'aller, la semaine qui suit le retour. Mais visiblement, les clusters du football marocain n'ont pas été d'une grande aide pour pouvoir tenir cet engagement. Maintenant, on va devoir décaler ces rencontres africaines pour la date FIFA du mois d'octobre. C'est une aubaine tombée du ciel pour la Fédération marocaine de football, pour l'Égypte aussi. Et on verra dans quelle mesure la CAF va être aidée par ces deux fédérations, par les protocoles sanitaires de ces deux fédérations, par les joueurs, par les clubs qui doivent s'impliquer pour qu'on puisse évidemment tenir le nouvel échéancier proposé par la CAF.
Lawal, c'était une erreur pour le Maroc de reprendre son championnat vu tout ce qui se passe actuellement.
Non, je ne pourrais pas dire que c'était une erreur parce que le Maroc a voulu reprendre son championnat. Malheureusement, la recrudescence des cas du coronavirus a bloqué les choses et a permis de suspendre les choses. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas dire que c'est une erreur. Les gens ont voulu, ont eu envie de le faire, ont pris même des mesures drastiques pour gérer la chose, mais le Covid n'étant pas maîtrisable, la chose a repris de plus belle et ce qui a occasionné donc cette suspension, malheureusement pour les fans du foot marocain.
À Médine, le Sénégal n'avait pas hésité à arrêter son championnat et a même donné une date de reprise pour novembre, mais malheureusement reprogrammée pour le 2 janvier prochain.
Oui, Élisée, la Fédération sénégalaise de football est en train quand même de cafouiller. La Fédération avait également décidé de faire reprendre le championnat. Ensuite, ils ont décidé d'annuler. C'est vraiment de la cacophonie au niveau fédéral. Mais je pense que c'est une décision sage, hein, puisque au Sénégal aussi, vu ce qui se passe là-bas avec le coronavirus, mieux vaut être sage, repousser vraiment les dates pour pouvoir quand même débuter dans des conditions excellentes, puisque au Sénégal, on ne maîtrise pas encore la maladie. Je pense que la fédération a bien fait, mais ils sont en train quand même de tergiverser, il faut le dire. Élisée.
Pendant ce temps à RDC, les clubs s'activent déjà pour la nouvelle saison. D'ailleurs, Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la Nina Foot, a communiqué la date de la reprise qui est le 25 septembre. On l'écoute.
Nous allons commencer. Le seul document qui donne la date fixe ou la date réelle du début du championnat, c'est le calendrier. Notre sous-commission s'attelle effectivement pour sortir un calendrier définitif, en fait, de ce qui est de la première phase, la manche aller. Aussitôt sorti, aussitôt terminé, aussitôt nous allons signer. Je peux vous donner la date. Nous voulons commencer effectivement le 25 septembre.
On revient vers vous, Valdo. Certains clubs ont déjà commencé les entraînements et d'autres animent le mercato. Le cas du FC Lupopo qui aurait recruté Diego Gazito.
Élisée, il faudra dire que la nouvelle de la signature de Garzito à Loupopo a certes fait la une de certains médias, notamment ici en République démocratique du Congo, mais en réalité, il n'en est rien. L'ancien entraîneur du Mazembe n'a jamais signé chez Loupopo. À une certaine période, il y a eu certes des tractations entre les deux parties, mais apparemment, la procédure n'a pas encore abouti, du moins jusque-là. En attente d'un entraîneur titulaire, Loupopo a engagé un entraîneur local comme adjoint à la personne de Bertin Makou en provenance des Racing Club de Kinshasa, club évoluant en Ligue 1. Loupopo nourrit de fortes ambitions cette saison au niveau national où les choses s'annoncent plutôt bien avec la prise en charge des frais des transports des clubs par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour la saison 2020-2021. Quand on sait que les frais des participations ont déjà été pris en charge par la Fédération Congolaise de Football Association, les clubs ont tout pour se concentrer sur le championnat national de la République démocratique du Congo.
Lawal, au Bénin, la fédération travaille à rendre véritablement professionnel son championnat dès la saison prochaine. La date de la reprise du championnat reste à déterminer.
Oui, rendre le championnat professionnel, c'est le vœu qu'on pourrait souhaiter à la fédération. Maintenant, quelles sont les conditions dans lesquelles ça va être professionnel?
Le ministre est en train d'expliquer ça aux acteurs, notamment au président du club et aux sociétés qui seront associées désormais.
Non, le ministre, je le vois mal expliquer une telle situation. C'est pas de son ressort. C'est vrai qu'il est le patron du sport au Bénin, mais c'est au sein de la fédération qu'on doit nous expliquer comment ça va se passer.
Il y a un AG ordinaire et extraordinaire à grand propos.
On attend véritablement que les choses soient claires dans tous les esprits, mais je maintiens que la réforme, elle est jolie, elle est judicieuse, elle est assez importante, mais le timing est mal choisi. On ne peut pas, sans une période de transition, aller directement à cette réforme de transformer tous les clubs en sociétés sportives et tout le reste. C'est bon qu'on ait eu l'idée. L'idée est là, elle est belle, mais il faudra prendre le temps nécessaire pour ne pas aller droit dans le mur, parce que une réforme mal mûrie peut créer des problèmes plus qu'il n'en faut.
On reste au Bénin pour parler du mondial de pétanque en 2022. Cotonou, ville hôte de la 50e édition des championnats du monde de cette discipline. En prélude à l'événement, le comité d'organisation a dévoilé la mascotte de la compétition en présence du président de la Fédération internationale de pétanque, Claude Azéma. Lawal Dinkosuro, un grand événement pour un pays qui travaille à faire du sport un véritable instrument de développement humain.
Oui, un grand événement et ça se prépare bien. Et il faut dire que le Bénin, déjà par ses prestations en Coupe du Monde, a montré qu'il est un pays qu'on doit respecter dans cette discipline et vu...
Finaliste et déjà troisième.
En Coupe du Monde. Et il faut dire que le Bénin s'emploie à véritablement montrer qu'il a son mot à dire en matière de pétanque. Et déjà même que la Confédération africaine de pétanque est dirigée par un Béninois, c'est tout à fait...
Un ancien président de la fédération.
C'est tout à fait bien que les choses se passent dans ces conditions-là. Et on espère que, fondamentalement, les Béninois vont montrer tout le bien qu'on pense d'eux en matière de pétanque.
Amine, le Bénin sera le cinquième pays africain à organiser une Coupe du Monde de pétanque. Madagascar, la Tunisie et le Maroc, qui ont déjà remporté au moins une fois cette compétition, sont attendus.
Et c'est un honneur pour le Bénin d'accueillir un tel rassemblement. La pétanque a sa popularité en Afrique, notamment dans la partie nord du continent, ajoutant à cela peut-être Madagascar. Ce qui est certain, c'est que ce pays, ami et frère, se fera certainement un honneur d'accueillir les Gotha de la planète et de réussir en matière d'organisation. L'Afrique a ses chances pour le titre final, même s'il y a des places fortes traditionnelles comme la France, l'Italie, Monaco. Mais nous allons miser sur les chances africaines, et en particulier sur la Tunisie et sur le royaume chérifien. Le Maroc a déjà remporté à 3 reprises le titre, plus un quatrième à titre individuel. Donc il y a des possibilités pour notre continent de briller lors de cette grande manifestation. Et nous allons bien évidemment faire le bilan en espérant que le Bénin sera à la hauteur des circonstances et qu'il pourra nous faire honneur en tant que pays hôte de la compétition.
Ahmedine Sy, une occasion pour le Sénégal, troisième en 2018, de soulever enfin sa première couronne dans cette discipline.
tout à fait, Élysée, pour cette 50e édition des championnats du monde de pétanque. Le Sénégal, qui était quand même troisième en 2018, tentera de soulever le trophée pour la première fois de l'histoire. Et le Sénégal misera aussi sur son meilleur joueur, qui est Farah Ndiaye, qui a été vice-champion du monde à l'âge de 18 ans. Il est devenu très expérimenté. Mais je dirais que ce sera extrêmement difficile, Élysée, puisque dans cette discipline, c'est la France qui règne. Hein. La France qui est le pays le plus titré, avec plus de 27 titres. Je pense que la France sera indéboulonnable, mais on ne sait jamais, on a un sport, le Sénégal tentera de créer l'exploit, Élysée, mais ce ne sera pas facile, Élysée.
Lawal, le Bénin aussi travaille à remporter son premier trophée dans cette compétition. De la construction de boulodromes jusqu'à la préparation des boulistes, le directeur technique national nous fait le point.
Mais vous savez, quand le gouvernement a accepté la candidature de ce championnat du monde de 2022, ça, c'est d'abord une chance pour nous et d'avoir au moins ce joyau qui va être organisé au Bénin en 2022. Mais c'est sûr que déjà il y a un programme qui a été donc déposé sur la table du ministre des Sports par rapport à notre préparation future pour ce 2022. Mais n'empêche que nous avons la chance quand même en 2021 d'avoir deux championnats au moins de haut niveau, puisque nous aurons le championnat continental et également le championnat mondial auquel nous sommes qualifiés. Donc déjà pour nous, ça va nous donner déjà un aspect de notre prouesse, de notre niveau, pour que la préparation pour 2022 soit carrément une préparation de taille, pour que notre pays au moins pour la première fois puisse être détenteur de cette coupe, puisque nous le voulons et nous allons tout faire quand même pour au moins arriver sur le podium.
À l'instant, Pri Trounou, le directeur technique national de la Fédération béninoise de pétanque, tout est en train d'être mis en place pour réussir cette organisation.
Les Béninois doivent la réussir parce que c'est un tournoi, une compétition majeure. C'est la première compétition mondiale que le Bénin abrite. Donc, ils ont intérêt à tout mettre en œuvre. Et avec la vista du gouvernement, avec l'objectivité qu'on met dans la gestion du sport aujourd'hui, on espère que ce sera un bel événement.
Handball, pour terminer cette émission, Amine. Le tirage au sort du Mondial 2021 a eu lieu en Égypte et c'est plutôt difficile pour les représentants africains. Le Maroc retrouve l'Algérie, le Portugal et l'Islande dans le groupe F.
Tirage au sort compliqué pour le Maroc, Élysée, dans ce championnat du monde de handball. Le Maroc revient à la compétition pour la première fois depuis l'édition qui s'était disputée en Allemagne en 2007. Et à l'époque, l'équipe avait fait une participation assez honorable, mais s'il n'avait pas réussi à franchir le cap du premier tour. Ce sera aussi compliqué que lors des précédentes éditions. Il est vrai que le handball en Afrique, l'exception de la Tunisie et l'Égypte, est un cran, voire deux, en dessous de celui qui est pratiqué sur le vieux continent. Et quand on sait que l'équipe du Maroc va affronter l'Islande, qui est une habituée des championnats du monde, des Jeux olympiques, qui réussit souvent à jouer les premiers rôles. Le Portugal est une nation en très gros progrès. Elle a éliminé la France lors du dernier championnat d'Europe. Et puis l'Algérie, qui s'est souvent distinguée lors du championnat d'Afrique et qui est habituée à ce genre de compétition. L'équipe du Maroc va recourir certainement à certains joueurs expatriés pour pouvoir renforcer le collectif et surtout essayer d'avoir un objectif, c'est de faire un match honorable face à l'Islande et au Portugal et surtout chercher à gagner face à l'Algérie, qui est l'adversaire le plus à la portée. Mais ce sera une mission très compliquée.
Valdo, la RDC se retrouve dans le groupe D et jouera le champion du monde en titre, le Danemark. Un difficile apprentissage.
Élysée, la RDC hérite d'un tirage très compliqué pour une première participation à une phase finale de la Coupe du Monde du handball chez les messieurs. Jouer les champions du monde en titre, les Danemark n'est pas peu de choses, mais bon, comme c'est arrivé, il faudra se préparer en conséquence pour ne pas être ridicule dans cette compétition et montrer que l'on mérite bien sa place parmi les 32 meilleurs pays de la petite balle présents à ces rendez-vous sur le continent africain. Ensuite, l'Argentine et les Bahamas, deux adversaires qu'il faudra bien étudier afin de tenter de faire quelque chose. Les sélectionneurs de la RDC et les Léopards savent certainement comment s'y prendre, mais ça s'annonce très compliqué. pour la RDC qui a obtenu sa qualification du fait que ce mondial soit organisé par un pays africain dont les quotas est de 6 pays et la RDC a fini 7e au dernier championnat d'Afrique. Le Congo démocratique aura tout à prendre qu'à donner dans cette phase finale.
Merci Valdo. Pour les autres représentants africains, le Cap-Vert jouera l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay dans le groupe A. La Tunisie évoluera dans le groupe B en compagnie de l'Espagne, du Brésil et de la Pologne. L'Angola est logée dans la poule C avec la Croatie, le Qatar et le Japon. Sporama, c'est fini. Merci de l'avoir suivi et merci aussi à toute l'équipe qui l'a préparé. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.